Антон Чехов. Путешествие на остров Сахалин.
Антон Чехов. Le voyage à Sakhalin.
Читает Владислав Галлар.
Lu par Vladislav Galar.
Et voilà ma chevauchée terminée. Elle a duré 2 mois, je suis parti le 21 avril. Si l'on ne tient pas compte du temps que j'ai passé en chemin de fer et en bateau, des 3 jours passés à Ekaterinbourg, de la semaine à Tomsk, d'un jour à Krasnoyarsk, d'une semaine à Irkoutsk, des 2 jours au bord du Baïkal, et des journées perdues à attendre des barques au moment des crues, on a une idée de la rapidité avec laquelle je suis allé. Je souhaite à chacun de terminer un voyage en aussi bonnes conditions. Je n'ai pas été malade une seule fois, et parmi la masse de choses que je transporte, je n'ai perdu qu'un canif, une courroie de valise et un flacon de phénol. J'ai tout mon argent. J'ai tellement pris l'habitude de rouler sur la grande route que maintenant je me sens tout drôle. Je ne puis croire que je ne suis plus en tarantasse et n'entends plus le son des clochettes. Je m'étonne quand je me couche de pouvoir étendre mes jambes de tout leur long et de n'avoir plus le visage couvert de poussière. Plus surprenant encore, la bouteille de cognac que m'a donnée Kouvchinikov ne s'est pas cassée. Elle est encore toute pleine. J'ai promis de ne la déboucher qu'au bord du Pacifique.
Troisième épisode.
Третья серия.
L'amour est une région bien intéressante.
Амур – чрезвычайно интересный край.
Printemps 1890. Tchekhov a 30 ans. Il connaît déjà le succès, ses récits sont lus dans toute la Russie. Il a également essuyé ses premiers échecs au théâtre, avec Ivanov, d'abord incompris. Puis l'esprit des bois dont personne ne veut, et qu'Anton a rangé à jamais dans un tiroir, ignorant qu'il en tirerait un jour Oncle Vania, l'un de ses chefs-d'œuvre. « Ma vie m'ennuie », écrit Tchekhov, lassé de l'agitation des milieux littéraires. Il éprouve un besoin physique de changer d'horizon. Est-ce la maladie qui le ronge? Cette phtisie dont il feint de méconnaître la gravité alors qu'il a déjà craché 11 fois le sang et qu'il y a dans la vue d'un mouchoir maculé quelque chose de sinistre comme dans une lueur d'incendie. En allant mener l'enquête sur le sort des bagnards de Sibérie, Tchekhov entend-il rembourser une partie de la dette qu'il dit avoir envers la médecine? L'écrivain est-il mu par la nécessité de connaître la réalité russe dans toute son horreur? Sakhalin, note-t-il, est un lieu de souffrance intolérable. Seul l'être humain, qu'il soit libre ou asservi, est capable de souffrances pareilles. À Moscou, sur le quai de la gare de Yaroslav, où Tchekhov monte dans un train le 21 avril 1890, certains murmurent aussi que c'est pour oublier une femme qu'il s'enfuit au bout du monde. 2 mois et demi plus tard, le 11 juillet, Anton abordera au rivage de Sakhalin, dans le Pacifique. Entre-temps, il aura franchi quelques 11 000 verstes, 12 000 kilomètres, en train, en bateau, en voiture de poste, en tarantasse, dans les conditions les plus épouvantables, sur la route la plus longue et la plus affreuse du monde, au cours du plus vilain printemps dont aient pu se souvenir ses cochers. De cette périlleuse traversée, Tchekhov fait dans ses lettres et ses notes de Sibérie, rédigées à l'intention de son éditeur Souvorine, un récit souvent amusé, et de s'émerveiller des beautés de la nature, faune et flore, de s'enchanter des 1000 paysages de la Sibérie dont nul ne sait dire où elle prend fin. Prose jusqu'au Baïkal. Poésie au-delà.
Антон Чехов, Осьян. Красноярск.
Красноярск.
28 мая 1890.
Le 28 mai 1890. Qu'est-ce que ce voyage est tuant. Je me suis traîné à grand-peine jusqu'à Krasnoyarsk et j'ai dû faire réparer 2 fois ma voiture. Jamais de ma vie je n'ai vu un voyage pareil. Une crue de printemps aussi colossale et une route aussi à l'abandon et aussi effroyable. Les 3 dernières étapes sont splendides. En approchant de Krasnoyarsk, on a l'impression de descendre dans un autre monde. En sortant de la forêt, on débouche sur une plaine qui ressemble beaucoup à notre steppe du Donetsk, mais ici, les chaînes de montagnes sont plus grandioses. Le soleil brille de toutes ses forces et les bouleaux ont des feuilles, alors que trois étapes auparavant, leurs bourgeons n'avaient même pas éclaté. Dieu merci, je viens enfin d'entrer dans l'été qui ne connaît ni le vent ni la pluie glaciale. Krasnoyarsk est une belle ville, évoluée. Comparée à elle, Tomsk est un cochon coiffé d'une mitre et d'un mauvais goût absolu. Les rues sont propres et pavées, les maisons grandes et en pierre, les églises élégantes. Je vais parfaitement bien, l'argent est intact, mes effets aussi. J'avais égaré mes bas de laine, mais les ai vite retrouvés. Jusqu'à présent, si on fait silence sur la voiture, tout se passe bien. Il n'y a aucune raison de se plaindre. Seulement, les frais sont abominables. Rien ne révèle mieux le manque de sens pratique qu'un voyage. Je paie trop cher, je fais des choses inutiles, je ne dis pas ce qu'il faudrait dire, et je m'attends chaque fois à quelque chose qui ne se produit pas. À l'intention de ma mâche, j'ai encore une boîte et demie de café, je me nourris de miel et de sauterelles, mais je déjeunerai aujourd'hui à Irkoutsk. Plus on va vers l'est, plus les prix augmentent. Le pain de seigle, ou plus exactement la farine de seigle, coûte déjà 70 kopecks. Le tabac que l'on vend en Sibérie est infect, il ne vaut rien. Je tremble, car le mien touche à sa fin. Portez-vous bien, je vous embrasse tous, vous repousse contre le poêle, vous reprend dans mes bras, et tel un évêque, je vous bénis et vous souhaite bien des choses. De grâce, pas de maladie ni d'incident, soyez prospères jusqu'à la moelle. Votre Homo Sakaliensis.
Extrait des notes de Sibérie. Отрывок записные книжки «Сибирь».
De Tomsk à Irkoutsk, je fais route en même temps que deux lieutenants et un médecin militaire. Un lieutenant d'infanterie coiffé d'un grand bonnet à poils, l'autre est un topographe et porte une fourragère. À chaque relais, crasseux, trempé, somnolent, éreinté par une marche lente et cahotante, nous nous jetons sur les canapés et nous indignons. Quelle mauvaise, quelle horrible route! Les commis et responsables du relais nous disent « Ce n'est rien encore, attendez un peu Kozulka, vous verrez. » À chaque relais à partir de Tomsk, Kozulka est l'épouvantail que vous brandissent les commis avec un sourire mystérieux et les voyageurs de retour, sarcastiques, qui semblent dire « J'y suis passé, c'est votre tour !» Et l'on terrorise à tel point votre imagination que la mystérieuse Kozulka habite vos rêves sous la forme d'un oiseau au long bec et aux yeux verts. Plus on approche de Kozulka, plus les signes prophétiques sont redoutables. Non loin du relais de Tchernorechenskaya, sur le Tar, la voiture qui porte mes compagnons de route se renverse. Et les lieutenants, le docteur, avec leurs valises, leurs baluchons, leurs sabres et un violon dans son étui, sont précipités dans la boue. Mon tour arrive en pleine nuit. Devant le relais de Tchernorechenskaya, mon cocher m'annonce que le chien de ma voiture est gauchi. Il s'agit d'une barre de fer filetée qui joint l'avant au train des roues. Lorsqu'elle se tord ou se brise, la voiture pique du nez vers le sol. On se met à réparer au relais. Une demi-douzaine de rouliers, sentant l'ail et l'oignon à vous faire suffoquer ou vomir, couchent la voiture crottée sur le flanc et entreprennent d'extraire à coups de marteau la pièce gauchie. Ils me disent qu'un ressort de la voiture a craqué, qu'une clavette s'est affaissée et que trois écrous ont sauté. Mais je n'y comprends rien et ne veux rien y comprendre. Il fait sombre, froid, tout m'ennuie et j'ai sommeil. Dans ma chambre au relais, une petite lampe luit faiblement. Ça sent le pétrole, l'ail et l'oignon. Sur un canapé gît, endormi, le lieutenant en bonnet à poils. Sur un autre est assis un barbu qui enfile paresseusement ses bottes. Il vient de recevoir l'ordre d'aller quelque part réparer le télégraphe, et il aimerait mieux dormir que partir. Le lieutenant à la fourragère et le docteur sont attablés, le visage reposant sur leurs mains, somnolents. On entend ronfler le bonnet à poils et les marteaux cogner dehors.
Ossien.
Irkoutsk.
Irkoutsk. 5 июня 1890.
Le 5 juin 1890. Bonjour, chère maman, Ivan, Masha et Misha, et vous tous. Je suis avec vous. De Krasnoyarsk à Irkoutsk, ce ne sont qu'étendues de taïga. La forêt n'est pas plus haute que celle de Solkolniki, mais en revanche, aucun cocher ne sait où elle finit. On n'en voit pas le bout. Elle s'étend sur des centaines de verstes. Qui vit dans la taïga? Que s'y passe-t-il? Nul ne sait. Il arrive, mais en hiver seulement, que des gens en quête de blé, venus du lointain Arctique, traversent la taïga tirés par des rennes. Quand on gravit une montagne et qu'on porte le regard au loin en contrebas, on a devant soi une montagne, puis une autre encore, et sur les côtés des montagnes également, le tout recouvert d'une épaisse forêt. On en a le frisson. À partir de Krasnoïarsk, la canicule et la poussière se sont mises de la partie. Une chaleur terrible. Pelisses courtes et bonnets de fourrure sont enterrés. On a de la poussière dans la bouche, dans le nez, derrière le cou. Pouah ! Irkoutsk est une ville superbe, très évoluée. Un théâtre, un musée, un parc municipal avec kiosque à musique, de bons hôtels. J'ai bon pied, bon œil. L'argent est intact. Le café, je l'ai mis de côté pour sa câline. Je bois un thé admirable qui me procure une agréable excitation. Je vois des Chinois. Ces gens-là sont débonnaires et pas bêtes. À la banque de Sibérie, l'argent m'a été remis sur le champ, m'a reçu avec amabilité, régalé de cigarettes et invité à la campagne. Il y a ici une magnifique confiserie, mais les prix sont infernaux. Les trottoirs sont en bois. J'ai vu aujourd'hui pour la première fois de ma vie un chat sibérien. Il a le poil long et doux, le caractère affable. Vous me manquez. Je vous ai envoyé aujourd'hui un télégramme vous priant de vous cotiser pour me faire des réponses plus longues. Ce ne serait pas trop vous demander, à vous tous, habitants de Louka, que de vous ruiner de 5 roubles. Comment vont les affaires côté galant et effet psychique? De qui Micha est-il amoureux? À quelle heureuse personne Ivanenko raconte-t-il les histoires de son oncle? Evata, je dois être amoureux de Lika car j'ai rêvé d'elle hier. Comparé à toutes ces praskovies de Sibérie, à toutes ces gueules de yakout et de bouriat qui ne savent ni s'habiller, ni chanter, ni rire, nos Lika, nos Drishka et nos Gundasikha sont tout simplement des reines. Les femmes et les demoiselles de Sibérie, du poisson congelé. Faut être un morse ou un phoque pour faire les galants avec elles. Aujourd'hui, j'ai enduit de graisse mon manteau de cuir. C'est un manteau sublime. Il m'a sauvé du rhume. Bravo aussi à ma pelisse courte. Elle me sert à la fois de pelisse et de matelas. Elle est aussi chaude qu'un poêle. On est tout à fait mal sans coussin. Le foin ne les remplace pas. Au bout de 5 ou 6 étapes, à cause du frottement, il s'en dégage beaucoup de poussière qui chatouille le visage et empêche de somnoler. Portez-vous bien. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vous salue tous. Votre Anton Tchekhov.
Отрывок записные книжки «Сибирь».
Extrait des notes de Sibérie.
On m'avait dit que la taïga était muette et que la végétation était inodore. Je m'y attendais, mais tout au long de ma route, j'entendis les oiseaux s'égosiller et les insectes bourdonner. Les aiguilles réchauffées par le soleil saturaient l'air d'un parfum épais de résine. Les clairières et l'orée des bois proches de la route étaient couvertes de fleurs, d'un bleu délicat, de couleur rose ou jaune, qui ne se bornaient pas à flatter le regard. Apparemment, ceux qui ont décrit la taïga l'ont observée non au printemps, mais en été, où même en Russie, les forêts sont muettes et ne dégagent aucun parfum. Près des bois chemine un hors-la-loi, qui porte sur son dos une besace et une gamelle. Combien ses crimes et combien lui-même paraissent petits, insignifiants devant l'énormité de la taïga. Il va se perdre dans la taïga, et il n'y aura là rien de bien sorcier, rien de bien terrible, ni plus ni moins que la mort d'un moustique. Faute de population dense, la taïga est puissante, elle est invincible. Et cette phrase, « l'homme est le roi de la nature », rend ici comme nulle part ailleurs un son étranglé et faux. Si, par supposition, tous les hommes qui vivent de nos jours le long de la grande route sibérienne se donnaient le mot pour anéantir la taïga et s'armaient pour cela de haches et de torches, on verrait se répéter l'histoire de la mésange qui avait voulu mettre le feu à la mer. Il arrive que l'incendie dévaste la forêt sur une demi-douzaine de verstes, mais sur la masse de l'ensemble, l'espace brûlé se remarque à peine, quelques dizaines d'années s'écoulent, et à l'emplacement de la forêt incendiée, il en pousse une nouvelle, encore plus dense et plus sombre. À ce que racontent les cochers, La taïga est peuplée d'ours, de loups, de cervidés, de zyblines et de bouquetins. Les moujiks vivant en bordure de la grande route, lorsqu'ils n'ont pas de travail, passent des semaines dans la taïga à tirer sur le gibier. L'art de la chasse est ici des plus simples. Si le fusil a tiré, il faut en remercier le ciel. S'il foire, il ne faut pas croire que l'ours vous fera quartier. Un chasseur s'est plaint devant moi que son fusil rate jusqu'à 5 fois de suite et ne tire qu'au 6e coup. Aller à la chasse armé d'un pareil bijou, sans couteau ni épieu, c'est un risque considérable. Les fusils importés sont ici médiocres et chers. Aussi n'est-il pas rare qu'on rencontre sur la route des forgerons capables de fabriquer des fusils. D'une manière générale, les forgerons sont des gens de talent. Et c'est particulièrement net dans la taïga, où ils n'ont pas dissipé leurs dons dans la masse de talents rivaux. La nécessité m'a fait connaître de très près un forgeron que le cocher m'avait recommandé de la sorte. « Ouh, c'est un maître! Il fabrique même des fusils !» Le ton et la mine de mon cocher me rappelèrent très vivement nos entretiens sur les artistes fameux. Ma carriole s'était rompue, il fallait la réparer. Et par l'entremise de mon cocher, je vis arriver au relais un homme maigre, pâle, aux gestes nerveux, de toute évidence doué de talent et grand buveur. Comme un bon praticien qui s'ennuie en traitant une maladie sans intérêt, il inspecta superficiellement et de mauvais gré ma voiture, posa un diagnostic concis et clair, réfléchit et, sans me dire un mot, s'éloigna sur la route d'un pas traînant, paresseux. Puis il se retourna pour dire au cocher « Ma foi, pourquoi pas, amène la carriole à la forge. » 4 charpentiers l'aidèrent à réparer ma voiture. Ils travaillaient avec négligence, sans entrain, et il semblait que le fer prenait les formes les plus diverses, indépendamment de sa volonté. Il fumait souvent, fouillait sans nécessité dans un morceau de ferraille, regardait le ciel lorsque je lui faisais presser le mouvement, minauderie d'artistes lorsqu'on leur demande de chanter ou de déclamer un morceau. À des moments comptés, comme par coquetterie ou désir d'éblouir les charpentiers ou moi-même, il brandissait son marteau, faisait gicler partout des étincelles et d'un seul coup résolvait un problème particulièrement complexe et délicat. Le coup pesant et massif qui aurait dû, semble-t-il, déglinguer l'enclume et faire trembler la terre, donnait à une mince plaque de métal la forme désirée, si bien que l'œil d'une puce n'y aurait rien trouvé à redire. Pour sa peine, il reçut de moi 5 roubles 50 copecs. Il empocha les 5 roubles et remit les 50 copecs aux 4 charpentiers. Ceux-ci remercièrent et tirèrent la carriole jusqu'au relais, sans doute jaloux d'un talent qui, dans la taïga, est aussi conscient de sa valeur et aussi despotique que dans nos grandes cités.
À sa sœur, Maria Pavlovna Tchekhova.
Maria Pavlovna, c'est l'unique sœur d'Anton, 5e enfant de la fratrie, sa Masha chérie, à qui Tchekhov lègera la propriété à vie de sa datcha de Yalta, l'argent et les revenus de ses œuvres dramatiques. Avec son frère Mikhail, elle allait assurer, après la mort de l'écrivain en 1904, la publication de 6 volumes de ses lettres dès 1912.
Лист Венічная.
На берегу Байкала.
Sur les bords du Baïkal.
13 июня 1890.
Le 13 juin 1890. Je vis des jours absurdes. Le 11 juin, c'est-à-dire avant-hier, nous avons quitté Irkoutsk dans l'espoir de prendre le bateau du Baïkal qui part à 4h du matin. Il n'y a que 3 relais d'Irkoutsk au Baïkal. Au premier, on nous a déclaré que tous les chevaux étaient pris. Qu'il était donc impossible de continuer, il a fallu passer la nuit là. Ayant quitté ce relais hier matin, nous sommes arrivés vers midi au Baïkal. Une fois au débarcadère, nous avons reçu comme réponse à notre question que notre bateau ne partirait pas avant le vendredi 15 juin. Autrement dit, il fallait jusqu'à vendredi rester assis sur la berge à contempler l'eau en attendant. Je n'ai rien contre les attentes et j'attends toujours patiemment. Mais voilà, le bateau qui descend l'Amour part de Sretensk le 20. Si nous le ratons, nous devrons attendre le prochain qui part le 30. Bonnes gens, quand donc arriverai-je à Sakhaline ? Aujourd'hui, il pleut. Le Baïkal est noyé dans le brouillard.
Intéressant, dirait Semashko. C'est mortel.
Il faudrait se remettre à écrire, mais je n'arrive pas à travailler quand il fait mauvais. Un inexorable ennui s'annonce. Cela irait à peu près si j'étais seul, mais j'ai avec moi les lieutenants et le médecin militaire qui aiment à parler et à discutailler. Ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils parlent de tout. Par-dessus le marché, un des lieutenants est un petit Khlestakov doublé d'un fanfaron. Lorsqu'on voyage, il faut absolument être seul. Rester dans la voiture ou dans sa chambre avec ses pensées est infiniment plus intéressant qu'être en compagnie. Le brouillard s'est dissipé. Je vois des nuages sur les montagnes. Ah, oh, sapristi, on dirait le Caucase. Au revoir, votre Homo Sacaliensis.
À sa sœur Masha. Благовещенск.
Du 23 au 26 juin 1890. L'amour est une région bien intéressante. Originale en diable. Elle grouille d'une vie dont on n'a même pas idée en Europe. Cela me fait penser au récit sur la vie américaine. Les rives sont si sauvages, si pittoresques et luxuriantes qu'on aurait envie d'y vivre jusqu'à la fin de ses jours. J'écris ces dernières lignes le 25 juin. Le bateau vibre et m'empêche d'écrire. Nous sommes repartis. Comme il fait chaud. Et que les nuits sont douces. Le matin, il y a du brouillard, mais il n'est pas froid. On parle tant sur ce bateau que l'air en est saturé. Ici, on n'a pas peur de parler haut. Qui pourrait vous arrêter? Où pourrait-on vous déporter? On peut faire le libéral autant que le cœur vous en dit. Les gens sont indépendants. Ils ont leur logique. On ignore la délation. Un détenu politique qui s'est évadé peut gagner librement l'océan en bateau sans craindre que le capitaine ne le vende. Cela s'explique en partie par une totale indifférence à ce qui se passe en Russie. Chacun se dit « qu'est-ce que ça peut bien me faire ?»
Alexei Sergeevich Suvorin.
Alexei Suvorin, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps Nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Suvorin publie les récits de Tchekhov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes. Les opinions réactionnaires de l'influent mania s'exacerbent et Tchekhov rompt bientôt avec lui.
Благовещенск.
Благовещенск.
Le
27 juin 1890. Bonjour, très cher. Je suis totalement incapable de décrire des fastes tels que ceux des berges de l'amour. Devant eux, je déclare forfait et reconnais mon indigence. Des rochers, des falaises, des forêts, des milliers de canards, de hérons et de canailles à long bec de toutes sortes, le tout dans un désert sans faille. À gauche, la rive russe, à droite, la chinoise. À mon gré, je contemple la Russie ou la Chine. La Chine est aussi désertique et sauvage que la Russie. Les villages et les postes de garde sont rares. Tout s'est embrouillé dans ma tête et se trouve réduit en poudre. Rien d'étonnant, Excellence. J'ai navigué sur l'amour pendant plus de 1000 verstes. J'ai vu des millions de paysages. Et n'oublions pas qu'avant l'amour, il y a eu le Baïkal et la Transbaïkalie. J'ai vu, à vrai dire, tant de splendeur et éprouvé tant de délices que maintenant je peux mourir. Je suis amoureux de l'amour. J'y vivrai volontiers un an ou deux. C'est tout à la fois beau, vaste, libre et chaud. Ni la Suisse ni la France n'ont jamais connu pareille liberté. Le dernier des déportés respire sur l'amour plus librement que le tout premier des généraux en Russie. On a commencé à voir des Chinois depuis Irkoutsk, mais ici, ils sont plus nombreux que les mouches. Ces gens-là sont tout à fait débonnaires. À partir de Blagoveshchensk vient le tour des Japonais. Ou plus exactement des Japonaises. Ce sont de petites brunes, à la coiffure énorme et compliquée, avec un joli buste, et pour autant que je puisse en juger, des cuisses courtes. Elles s'habillent avec goût. Dans leur langue, le son « ts » prédomine. La japonaise a une petite chambre très proprette, sentimentale à la manière asiatique, peuplée de petits objets. Ni cuvette, ni caoutchouc, ni portrait de généraux. Le lit, large, n'a qu'un seul oreiller de taille modeste. Vous vous posez sur l'oreiller, tandis que la japonaise, pour ne pas mettre en désordre sa coiffure, pose sous sa tête un support en bois de la forme que voici. La nuque se place sur la partie incurvée. La japonaise a une conception bien à elle de la pudeur. Elle n'éteint pas la lumière. Et à la question « comment dit-on en japonais ceci ou cela ?», elle répond sans détour. Et de plus, comprenant mal le russe, elle désigne des doigts, voire même prendre dans ses mains. Tout cela sans minauder, ni faire de simagrée comme les Russes. De plus, elle rit sans cesse, tout en égrénant le son tss. Elle montre à l'ouvrage un savoir-faire surprenant. On n'a donc pas l'impression de consommer, mais plutôt de participer à quelque exercice de haute école d'équitation. Au moment ultime, la japonaise sort de sa manche avec ses dents une petite feuille de papier coton, attrape le petit gars et procède par surprise à un essuyage avec ce papier qui vous chatouille le ventre. Tout cela avec coquetterie, en riant, en chantonnant et avec des tits. Je suis en parfaite santé. Jugez-vous-même. Il y a plus de 2 mois que je vis jour et nuit à ciel ouvert. Et que de gymnastique. Je me baigne dans l'amour. Prendre des bains dans l'amour, bavarder et manger avec des contrebandiers d'or. N'est-ce pas intéressant? Votre Anton Tchekhov.
Осия. Недалеко от Хабаровска.
Près de Khabarovsk.
На борту Муравьева.
À bord du Муравьев.
29 июня.
Le 29 juin 1890. Des météores volent dans ma cabine. Ce sont des vers luisants pariés à des étincelles d'électricité. Le jour, des chèvres sauvages traversent l'amour à la nage. Ici, les mouches sont gigantesques. Je partage ma cabine avec le chinois Sun Luli, qui me raconte sans arrêt comment chez eux, en Chine, à la moindre broutille, hop, la tête. Hier, il s'est gavé d'opium. Il a déliré toute la nuit et m'a empêché de dormir. Le 27, je me suis promené dans la ville chinoise d'Aigun. J'entre peu à peu dans un univers fantastique. Je serai demain à Khabarovsk. Le chinois s'est mis à chanter en lisant la partition notée sur son éventail. Portez-vous bien. Votre Antoine.
Anton Tchekhov, Le voyage à Sakhaline. Troisième épisode, L'amour est une région bien intéressante. Lu par Vladislav Galar. Texte choisi par Jean Torrent. Avec les voix de Odja Lorca et Olga Kokorina. Violoncelle et chant, Vladislav Galar. Réalisation, Christophe Hockey. Prise de son, montage, mixage, Bastien Varigaud, Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Les lettres d'Anton Tchekhov sont tirées de « Vivre mes rêves, lettres d'une vie », traduction Nadine Dubourvieux, édition Robert Laffont. De « La correspondance », publiée aux éditeurs français réunis. Des « Lettres de voyage », traduction Françoise Darnal-Lainé, édition de l'Harmattan. Et de « L'amour est une région bien intéressante », traduction de Louis Martinez, édition 100 pages.